RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, après la Pologne et la Hongrie, deux nouveaux pays de l'Union européenne font face à une vague populiste, la République tchèque et l'Autriche. Deux petits pays d'Europe centrale qui ont vu lors de leurs élections au début de cet hiver des populistes arriver au pouvoir. Andrej Babiš en République tchèque cherche à former un gouvernement. Le pays choisira aussi ce dimanche son président, populiste pro-russe ou un pro-européen. L'Autriche, elle, depuis le début du mois, est gouvernée par une coalition conservatrice extrême droite. Un peu plus de 10 millions de Tchèques, un peu moins de 9 millions d'Autrichiens, deux populations qui se durcissent vis-à-vis de l'Europe et notamment de sa politique relative aux réfugiés. République tchèque, Autriche, une vague populiste à l'assaut de l'Europe. Grand reportage signé Anissa El-Jabri dans ces territoires en proie aux doutes et à la colère.
Neige sur les toits et les trottoirs, flocons qui fondent sur les manteaux dans le vent glacial, les Viennois accélèrent le pas. Surtout à la vue d'un micro, les questions de la presse étrangère sur le nouveau gouvernement agacent. Ça fait plus de 60 ans que la capitale autrichienne se choisit à chaque élection un maire social-démocrate. Et pourtant, Vienne la Rouge, c'est son surnom, est de moins en moins un bastion de gauche. Ici aussi, on vote pour les populistes d'extrême droite du FPÖ. Et ici, comme ailleurs en Autriche, on l'assume sans phare.
Ce qu'on attend tous, c'est qu'enfin quelqu'un se saisisse de ce dossier des migrants. Parce que si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'argent pour nous, les Autrichiens. Bien sûr qu'il y a parmi eux de pauvres gens qui fuient la guerre. Mais beaucoup d'autres viennent pour des raisons économiques. Des gens qui ne savent pas lire ni écrire et qui n'ont pas leur place ici.
Il faut vraiment que ça change en Autriche. Regardez autour de vous. Ici, il y a plein de migrants, des jeunes laissés à eux-mêmes. Quand on est une femme, on a peur. Même moi, je suis un homme et je ne me sens pas toujours rassuré.
L'Europe, ils doivent l'entendre. On a voté pour cette coalition, pour une nouvelle politique d'immigration aussi. C'est la décision de la majorité. Elle doit être respectée.
À quelques 5 heures de voiture au nord, la petite ville de Liborovice en République tchèque. 4000 habitants, un petit château sur une colline, des prés verdoyants, paisibles. À la sortie du supermarché, à l'heure des dernières courses pour le week-end pourtant, la même colère qu'en Autriche, les mêmes propos.
Il y a vraiment un problème avec l'Europe sur la question de l'immigration. Je n'ai rien contre les immigrés, mais pas question de se laisser imposer des quotas. Moi, c'est la sécurité qui me préoccupe, surtout pour mes enfants. Avec tous ces migrants, je suis très inquiet sur la question du terrorisme. D'ailleurs, à cause de ça, je n'emmènerai jamais mes enfants à Paris ou à Londres.
Ma famille, dans les petits villages à côté, ils n'ont pas de bus, pas d'école, rien. Et puis, quand les immigrés débarquent avec leur mentalité différente de la nôtre, ils veulent tout nous dicter. Ils réclament plein de choses, comme des mosquées. Ça fait peur.
Euroscepticisme, peur de l'étranger, peur pour sa sécurité. En Autriche, le cocktail fait depuis longtemps progresser le populisme. En République tchèque, c'est une nouveauté. Un parti populiste en tête, un autre parti d'extrême droite à 10%. Le résultat des législatives cet hiver... un coup de tonnerre.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague.
À Radio Prague, Guillaume Narguet a observé de près ces élections. 20 ans que ce journaliste vit en République tchèque. Quelques mois après les législatives, en pleine compétition présidentielle, il cherche encore des explications.
On a du mal à comprendre parce qu'il suffit de se balader dans les rues de Prague ou de n'importe quelle ville en République tchèque pour s'apercevoir qu'il n'y a absolument aucun étranger, mis à part des centaines de milliers de touristes en République tchèque. Il n'y a pas de gens de couleur, il n'y a pas de musulmans, il n'y a rien. La République tchèque a accueilli 12 réfugiés en 2017.
30 ans après la révolution de velours, puis l'entrée dans l'Europe, le pays a beau bien se porter, la déception est palpable.
Guillaume Narguet.
Moi, en tant que Français, vivant ici en République tchèque, originaire en plus d'une région du nord de la France où c'est pas facile non plus pour tout le monde, moi je leur dis, mais venez en France, venez voir les difficultés que peuvent avoir les Français. Ici, les Tchèques ne se rendent pas bien compte. Les gens de ma génération, ce sont tous des gens qui ont un travail qui leur plaît en plus, qui ont des contrats à durée indéterminée, bref, qui ne vivent pas dans la précarité comme beaucoup de jeunes en France. Et ça, les Tchèques ne s'en rendent pas compte. Eux, ce qu'ils voient, c'est ce que les autres ont, notamment les Allemands, les Autrichiens, et qu'eux n'ont pas. Est-ce qu'ils savent qu'il y a 25% de chômage chez les jeunes en Espagne, les difficultés qu'ont les jeunes en Italie, les étudiants en France, même s'ils sont diplômés, pour trouver un logement, pour trouver du travail? Je pense que les Tchèques, tout ça, ne le savent pas et ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce qui explique, je pense, ce vote que j'ai du mal à comprendre et à analyser. Quoi.
Légitimement frustré ou enfant gâté, la crise des réfugiés a réactivé en République tchèque un manque de confiance en l'Europe. Un sentiment qui vient de très loin, explique Petr Joust, chef du département d'études politiques à l'Université de Prague.
L'Union européenne est parfois comparée à un moment terrible de l'histoire de notre pays, l'époque du communisme. Ceux qui critiquent l'Union européenne ont tendance à dire « Avant, nous étions dirigés par Moscou, maintenant c'est par Bruxelles ». En fait, on nous empêche tout simplement de décider par nous-mêmes. Et puis, il y a un autre moment de l'histoire qui a son importance. Pas chez les jeunes, mais chez les générations au-dessus. Cela se rappelle des accords de Munich en 1938, quand la France et l'Allemagne ont sacrifié le pays. Il reste de la méfiance.
Méfiance vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de l'inconnu, de l'étranger. Là aussi, surtout pour les moins jeunes. C'est l'analyse d'Andrei Orkiouran, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales à Prague.
Souvent, on a vu aussi dans les médias internationaux, décrivant ça comme un paradoxe de l'Europe centrale. Il n'y a pas de réfugiés, mais il y a un taux d'islamophobie qui est extrême. Ce n'est pas un paradoxe, seulement très logique. C'est des pays où les gens ne pouvaient pas voyager avant 1989. Alors, les gens n'ont pas vraiment eu d'expérience avec l'islam. Et évidemment aussi les gens qui vivent dans la périphérie du pays, ils n'ont pas vraiment d'expérience. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un musulman dans leur vie. Et évidemment, ça permet à la classe politique de jouer avec cette carte xénophobe pour gagner le vote électoral. La soi-disant crise de réfugiés, parce qu'en République tchèque, il n'y a pratiquement pas eu de réfugiés, montre très bien que c'est la perception et pas vraiment le fond du problème qui font la différence. Évidemment, il y a des émotions parmi la population qui ont beaucoup d'impact sur les décisions politiques.
Des émotions, une perception déformée, des journalistes et des chercheurs pointent une cause, la désinformation à l'œuvre dans le pays. Un quart des Tchèques ne font pas confiance aux médias traditionnels, leurs sources d'information sont ailleurs.
C'est difficile à compter, mais entre les chiffres du gouvernement et ceux des services secrets, je dirais qu'on compte plus d'une trentaine de sites de faits alternatifs, tous anonymes.
Andrei Kundra est journaliste d'investigation à Respect Magazine. Il travaille sur ce sujet depuis 2 ans.
Beaucoup de ces sites ne sont pas sophistiqués. L'idée n'est pas de persuader que la totalité de l'information qu'on y trouve est juste, mais simplement de propager de la méfiance dans la société. Que les gens se disent « c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est peut-être juste aussi, qui sait ?» Et à la fin, plus personne ne croit à rien et c'est impossible de démêler le vrai du faux.
Un responsable désigné, Moscou.
Si vous lisez ces sites, vous voyez qu'ils critiquent l'Union européenne, les quotas de migrants, ils critiquent l'OTAN, la démocratie. Et puis regardez l'ambassade de Russie à Prague, c'est une des plus importantes de l'Union européenne. Elle compte plus de 120 diplomates. Si vous comparez avec, par exemple, l'ambassade de Russie à Londres, il y a 80 diplomates. Nous, nous en avons donc 40 de plus. Alors on peut se dire que la République tchèque est plus importante géopolitiquement que la Grande-Bretagne, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On peut quand même se demander ce que tous ces types à l'ambassade font ici. Pour moi, c'est clair, l'influence de la Russie est très forte dans ce pays.
Qui
Et derrière ces sites anonymes, si lus par les Tchèques, c'est impossible à démontrer. Ils influencent en tout cas le débat politique. Leur cible, en ce mois de janvier, le candidat pro-européen à la présidentielle, Jiří Drahoš. Dans l'entre-deux-tours, son équipe ne les pointe pas du doigt, mais lance cette mise en garde. Miroslav Bartaš, conseiller d'Jiří Drahoš.
We are living in a period of Facebook, of Twitters.
Nous vivons dans l'époque des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc les gens sont tout simplement habitués aux messages courts et rapides. Ils s'attendent à des réponses courtes, claires, rapides, et ils oublient que les grands problèmes exigent d'énormes efforts pour être analysés et beaucoup de temps pour être résolus. Les solutions ne sont jamais faciles et on ne peut pas non plus les résumer en 250 signes. Alors mon message aux électeurs est très simple. Ne faites pas confiance aux gens qui ont des solutions rapides et faciles. Dans ce monde, ça n'existe pas.
There are no quick and easy solutions to this world.
Attention aux solutions faciles, attention aussi aux mots qu'on emploie. Cet appel résonne chez les voisins tout début janvier à Vienne. Le président Alexander Van der Bellen intronise le tout nouveau gouvernement, une coalition conservateur extrême droite. Devant l'équipe réunie, ce fils de réfugié devenu président à 72 ans lance cet avertissement solennel.
Nous sommes ici unis dans le respect de notre histoire, de ses pages héroïques comme de ses pages les plus sombres. Nous devons assumer la responsabilité de l'histoire et cela passe par la manière dont nous nous exprimons. Les mots, les formules que nous utilisons dans le débat public ont un sens. Ils façonnent d'abord nos consciences, notre idée du monde et puis ensuite notre réalité. Nous devons respecter les droits des minorités, respecter ceux qui pensent autrement. Nous devons aussi soutenir les plus fragiles dans notre société. C'est cela le sens de nos valeurs.
Comme s'il avait parlé dans le vide. Quelques jours plus tard à peine, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, le populiste d'extrême droite Herbert Kickl, fait cette proposition. Concentrer les demandeurs d'asile dans des centres dédiés. L'écho au passé nazi du pays est immédiat, le tollé des ONG et des associations énorme. Mais sur ce sujet, comme sur la Hongrie autoritaire de Viktor Orban, présentée comme un modèle à suivre par le vice-chancelier, son parti, le FPÖ, est aux abonnés absents. Au sein de l'extrême droite autrichienne, élu comme militant, on respecte les consignes, se tenir à grande distance de la presse. Ce sont finalement les partenaires de coalition qui répondent. Lukas Mandl est eurodéputé, conservateur, les mêmes joues pleines que son mentor Sebastian Kurz, la même toute petite trentaine.
Le gouvernement autrichien a clairement une orientation pro-européenne. C'est même écrit dans le contrat de coalition. Nous avons dit aussi que nous étions pour la prolongation des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et je suis très heureux d'avoir un gouvernement 100% européen.
Se justifier pour ses partenaires au bout de quelques minutes et de quelques questions, le conservateur en a assez.
Le chancelier et la ministre des Affaires étrangères ont déjà dit là-dessus ce qu'il y avait à dire. Je ne ferai pas d'autres commentaires.
Le ton de Lukas Mandl devient sec et son visage se crispe. À peine quelques jours de gouvernement et déjà des tensions visibles entre les deux partis. Qui va l'emporter ? Wolfgang Müller, chercheur en sciences politiques à l'université de Vienne.
Le chancelier conservateur Sebastian Kurz est avant tout un politique ambitieux. Il choisit les thèmes qui permettent de gagner et c'est tout. Son idée, c'est de mettre le FPÖ au gouvernement. C'est un moyen de l'encadrer et de le contrôler. Ça a marché dans le passé, le parti s'est brisé, sauf que cette fois-ci, je pense que ça ne marchera pas. Le FPÖ est beaucoup plus préparé.
Contrôler politiquement les populistes, le pari fait carrément bondir la journaliste Nina Horacek, spécialiste de l'extrême droite autrichienne.
Sebastian Kurz est un très geschickter
Sébastien Kurz est très habile. Il a calculé très froidement comment prendre le pouvoir, quel qu'en soit le prix. Il s'est hissé à la tête de la République en abandonnant ses principes et a repris à son compte les positions du FPÖ, notamment sur l'immigration, mais en affichant une approche plus humaine.
Tous ces discours, la société civile tente de les combattre par l'exemple. Sud-est de Vienne, juste de l'autre côté du Danube, l'hôtel Magdas, ses fenêtres donnent sur la grande roue du Prater, un immense parc noyé sous le brouillard d'hiver.
Ici, avant, c'était une maison de retraite gérée par notre association Caritas. Et nous l'avons totalement rénovée. On a fait ça en 9 mois seulement.
Gabriela Zonleitner est la gérante de cet hôtel pas comme les autres qui fête son 3e anniversaire.
On a rénové mais gardé des anciens objets. Par exemple là, dans la salle du petit déjeuner. Vous voyez ce miroir ? Regardez mieux. Voilà, c'est en fait une ancienne porte de chambre avec une glace qui était trop abîmée pour servir. Alors on l'a mise à l'horizontale et voilà, ça nous fait la déco.
130 chambres, une trentaine d'employés, un tiers de professionnels qui encadrent des demandeurs d'asile.
Ceux qui commencent chez nous n'ont jamais eu d'expérience du métier. Ils peuvent faire de la cuisine ou du ménage ou travailler à la réception. Ce que l'hôtel Magdas montre, c'est qu'il y a beaucoup de nos nouveaux concitoyens qui veulent vraiment travailler, mais qu'il faut leur donner une chance. Il faut faire tomber les barrières qui sont dans les têtes. Vous savez, quand les gens se disent « Oh, mais ces gens ne parlent pas bien allemand », et puis ils viennent d'une autre culture, et on ne voit pas qu'ils parlent plusieurs langues, qu'ils sont extrêmement motivés, qu'ils veulent du travail. Avec cet hôtel, nous pouvons montrer tout ce qu'ils peuvent apporter.
Derrière le bureau de l'accueil, c'est une ex-professionnelle du tourisme qui gère les réservations, rachats et réfugiés de Syrie.
Beaucoup de réfugiés que je connais ici ont très peur à cause de ce qui se passe en politique. Ils ont peur qu'on leur dise « partez ». Mais moi, tout ça, je m'en fiche. C'est vrai, j'ai envoyé beaucoup de candidatures pour trouver du travail. J'ai même eu des entretiens et ça n'a jamais marché. Peut-être que les employeurs voulaient un Européen, peut-être que mon allemand n'était pas assez bon, mais ça n'est pas grave. Nous, nous avons fui la guerre, tout recommencé ailleurs, appris une autre langue, une autre culture. Nous avons tellement fait en quelques années. Je suis fière, très fière de nous, les réfugiés. Et moi, j'irai encore plus loin. Je vais ouvrir ici une entreprise, un bureau de voyage, et je prendrai la nationalité autrichienne. Oui, je peux le faire. Pourquoi je ne pourrais pas ? Oui, je peux faire ça. Je peux aller plus loin.
Pas de peur, encore des rêves. Les imposer dans l'Autriche d'aujourd'hui, c'est pourtant un énorme défi. La classe politique opposée à ce gouvernement est elle-même souvent démunie. Dans son bureau du Parlement, la députée social-démocrate Muzna Duzdar déroule ses éléments de langage.
Le FPÖ au gouvernement est co-responsable des mesures à venir qui vont contre les intérêts des classes populaires. Par exemple, la réduction des allocations chômage, la baisse des prestations sociales, ça concerne très exactement les gens qui ont voté pour ce parti. Et ça, le FPÖ cherche à le masquer avec ses propos populistes. C'est un écran de fumée. Ils veulent faire oublier la politique ultralibérale qu'ils mènent et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'utiliser sans cesse le sujet des migrants. Par exemple, le ministre de l'Intérieur FPE parle sans cesse d'insécurité, de criminalité parmi les demandeurs d'asile. C'est ça leur vraie stratégie, cacher la vraie politique qu'ils veulent mener.
Les demandeurs d'asile sont-ils vraiment plus criminels que les Autrichiens ? La députée social-démocrate Muzna Duzdar ne cherche pas vraiment à répondre. Comme elle, beaucoup de politiques autrichiens ont délaissé ce combat. Le bras de fer se joue désormais en Europe. Le continent va-t-il légitimer ses pratiques populistes au risque de reculer sur ses valeurs fondatrices ? Populistes comme leurs adversaires mal en point, tous sont d'accord. Pour l'Europe, l'année 2018 sera décisive. République tchèque, Autriche, deux populismes à l'assaut de l'Union européenne. Un grand reportage d'Anissa El Jabri, réalisation Pierre Chaffanjon.